Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi της Ευρώπης.
Κρόσκοτερ Ευρώπη.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à un carrefour septentrional, bienvenue en Islande, bienvenue à Reykjavik. La crise financière de 2008 qui a failli engloutir le pays et les volcans en folie qui ont paralysé le trafic aérien ont mis l'Islande sur la carte du monde. Chacun sait désormais que la capitale de l'Islande s'appelle Reykjavik, à tel point que les touristes sont devenus trois fois plus nombreux que les habitants. Le pays reste entouré de poissons et les Islandais l'exportent partout. Bref, l'économie est repartie, le chômage dépasse guère 3%. L'Islande sait bien se vendre. Alors qu'elle implorait une adhésion à l'Union européenne, elle vient de lui claquer la porte au nez. Au beau milieu de l'océan Atlantique, à mi-chemin entre l'Europe continentale et l'Amérique du Nord, l'Islande, avec la fonte des glaces arctiques, se rapproche de la Russie. Plus que jamais, les descendants des Vikings se veulent indépendants. Mais peut-on être réellement indépendant lorsqu'on est seulement 320 000 habitants? Carrefour de l'Europe avec une heure à la découverte de l'Islande et des Islandais. Je vous présente nos invités qui ont bien voulu nous rejoindre ici à l'ARPA. Gunnar Haraldsson Godandain.
Godandain.
Bonjour. Vous êtes économiste à l'Université d'Islande. Gérard Remarqui, bonjour.
Bonjour.
Godandain.
Godandain.
Vous êtes journaliste et écrivain. Vous venez de publier Les Islandais dans la collection des ateliers Henri Dougier. C'est une vraie plongée pour qui a envie de découvrir l'Islande et les Islandais. Quelqu'un qui voudra en savoir plus qu'au cours de l'émission. Par ailleurs, je pense que vous êtes le plus islandais des Français.
Voilà.
Vous êtes en Islande depuis déjà
40 ans.
40 ans. Donc l'Islande n'a pas de secret pour vous.
Aucun.
On va voir ça. Iris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, mais pas seulement parce que tous les Islandais ont parfois un deuxième, voire un troisième travail. C'est aussi votre cas.
Bah oui.
Comme tout le monde. Victor Gaston Gaillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pêcheur, entre autres. Vous êtes guide touristique également et d'autres choses encore. Et puis, un dernier invité, Solvi Siglinda Ulfsson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant notamment en sciences environnementales. Alors, les noms islandais ne sont guère faciles à le prononcer, et je viens de le prouver. Mais les Islandais ont une coutume qui facilite la vie des étrangers. Ils ont l'habitude de s'interpeller par leur prénom. Pourquoi, Gunnar?
Parce que généralement, les noms de famille n'existent pas chez nous. Pas très traditionnellement, ça n'existe pas. C'est un système patronymique. On se lie avec le prénom de votre père, en fait, normalement, ou la mère. C'est beaucoup à la mode maintenant. Alors,
par exemple, vous êtes Gunnar Haraldsson, ça veut dire ?
Ça veut dire que le prénom de mon père, c'est Haraldur. Ça veut dire que je suis Gunnar, le fils de Haraldur.
Alors, par exemple, il y a évidemment l'Islandaise la plus connue en dehors de Björk, c'est Vigdís Finnbogadottir. Elle a été longtemps la présidente de votre pays, pendant, je crois, 16 ans, de 80 à 96. Et évidemment, si elle avait été là, vous ne l'auriez pas appelée « Bonjour, madame la présidente », vous l'auriez appelée comment, Iris ?
Vigdís.
Vigdís, vous l'auriez appelé Vigdís. Ouais. Voilà. C'est tout naturel pour un Islandais d'appeler son ancienne présidente Vigdís. Il y a une simplicité chez les Islandais ou c'est plus complexe que ça? Qui veut répondre? Peut-être Gérard Lemarquis.
Oui, c'est peut-être plus complexe parce que on découvre quand on habite depuis longtemps en Islande que bien sûr il y a une complexité sociale. On ne s'adresse pas n'importe comment à n'importe qui, mais enfin il y a quand même une proximité qui est plus grande en Islande que dans une grande nation, c'est certain.
À cause des 320 000 habitants ?
Absolument. On est tous plus ou moins cousins, on a des relations multiples avec les gens, une proximité plus grande.
Et vous dites vous-même que je connais à peu près 1% de la population islandaise.
Oui, c'est ça, j'ai enseigné beaucoup de monde. Comme correspondant de presse, j'en ai rencontré des quantités. Et puis, il y a la famille de ma femme, il y a mes voisins. Bref, on est tous pris dans un réseau de 2000 personnes. Et chaque jour, on remet à jour le fichier mental que nous avons tous.
Alors, d'où viennent les Islandais? Sont-ils les descendants des Vikings ou aiment-ils simplement à se faire passer pour les descendants des Vikings? Qui veut répondre? Victor peut-être, le pêcheur.
C'est pas ma spécialité, mais en tout cas, oui, les Islandais viennent donc des Vikings norvégiens et danois qui se sont installés ici un peu avant l'an 1000 et qui sont donc sont installés ici, ont réussi à survivre, même si ça a été assez difficile pour beaucoup, qui ensuite sont quelques-uns sont partis vers le Groenland et les États-Unis. La légende raconte que les Vikings s'arrêtaient au nord du Royaume-Uni pour récupérer des femmes les plus belles et des esclaves.
J'ai entendu qu'il y a eu des mariages aussi quand même.
Mais
c'était pas tout noir.
D'accord.
Mais, oui, c'est un grand mélange.
Salfie.
Íslensk erðagreining, une entreprise scientifique en Islande, a confirmé ça. Et là, génétiquement, les hommes, le parti homme de la gène, quoi,
oui,
sont mâles et la partie féminine irlandaise.
Irlandaise.
Donc, ils sont.
D'où peut-être cette confusion entre eux parfois, et j'imagine que les Islandais sont un peu énervés. On dit, on veut dire Islande et on dit parfois Irlande. Ça énerve forcément un peu les Islandais, Gérard Le Marquis.
Oui, absolument. Mais quand on lutte pour son indépendance, on doit faire la différence avec, bien sûr, la puissance coloniale qui était le Danemark, hein, en l'occurrence. Et alors, comment faire la différence? Il y a la langue, il y a aussi l'origine ethnique, entre guillemets. Donc les Islandais ont toujours valorisé énormément ces origines celtes pour marquer leur différence avec les Scandinaves.
Les Islandais ne se considèrent évidemment pas comme Scandinaves, ils se considèrent comme...
Nordique.
Mais parce que vous avez parlé tout à l'heure des noms de famille, en fait, Sjönur et Dóttir, etc., pour le prénom. Dans ce contexte, c'est intéressant à dire, et dans le Íslendinga bók, ou c'est quoi, dit genetics, on peut tracer l'arbre de famille très très loin. Mais c'est vraiment grâce à notre système de noms. Parce qu'on peut dire fils de cette personne, et cette personne était le fils ou la fille de quelqu'un. Et comme ça, ça a été très facile pour nous de tracer à travers des siècles et des siècles.
Godard, par exemple, votre arbre généalogique remonte à très très loin
Oui.
Ah oui.
Grâce à ça.
Et en fait, il y a ce site sur Internet où on peut bien tracer les aïeuls.
Et on remonte très très loin dans le temps. Jusqu'au, c'est-à-dire, on est environ du 9e siècle à peu près. 9-10e siècle.
Ouais.
Même plus loin. Alors, dans un moment, Victor a employé un mot qu'il m'a fait bondir. Il a parlé de légende. Est-ce que l'histoire de l'Islande, je laisse de côté les parties contemporaines avec la colonisation danoise, c'est une histoire de légende qu'on a tendance à appeler des sagas, Gérard Le Marquis?
Les Islandais ne sont pas encore prêts à reconnaître leurs origines légendaires. Ils prennent les textes des sagas pour argent comptant. Mais il y a aujourd'hui un certain mouvement parmi les historiens pour revoir cette histoire. En fait, il y a des chances que le premier Islandais, Ingólfur Arnarson, ou bien n'ait jamais existé, ou bien a été un personnage beaucoup plus obscur. Mais c'est très important de marquer ses origines, d'avoir un point zéro. Et les Islandais
et
ne sont
zéro.
Pas prêts à... Le point zéro, c'est Ingólfur Arnarson, même si on sait que des Vikings étaient déjà venus avant.
Et là, on est en quelle année?
On est en 874, mais aujourd'hui, on est revenu d'ailleurs sur cette date, puisque le musée de l'installation viking à Reykjavik, son nom même est un point d'interrogation. 871, plus ou moins 2 ans.
Gunnar.
Très récemment, on a trouvaille archéologique qui, en fait, montre qu'on avait eu une habitation ici en Islande. C'était au 7e siècle, c'est bien avant, et on n'a pas réglé cet petit problème.
Que racontent ces sagas? Ce sont des contes, ce sont des légendes, ce sont des croyances. Iris, allez, Iris, qui va se lancer?
Un mélange de tout, je pense.
Oui. Ça fait partie de notre héritage. On lit, c'est obligatoire de lire ça au lycée, par exemple, parce que ça... on doit tous le connaître. Mais qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que les Islandais croient aux fantômes, aux esprits, aux elfes ?
Bah ça, c'est une autre question.
C'est encore autre chose. Je sens qu'on va pouvoir débattre.
Il importe culture, en tout cas, pour tous. Individuellement, si on fait le tour de table, je ne sais pas si on aura tous que des oui, mais ça fait quand même une grande partie de notre culture.
Alors, Gérard Marquis, vous qui avez été prof aussi dans votre vie, un jeune Islandais, il a un livre d'histoire ou il a un livre de contes qui s'appellerait un livre des sagas ?
Les sagas islandais sont absolument remarquables. Écrit dans un style direct, ce sont des histoires extrêmement vivantes. Il y a autant de femmes que d'hommes, par exemple. Je dis ça parce que dans la chanson de Roland, la malheureuse femme, et on parle d'elle sur 12 vers. Bon, c'est différent dans le roman courtois, mais ce sont les sagas, on peut les lire aujourd'hui directement. Un Islandais les lit dans le texte, il n'y a pas besoin de réécrire, comme il faut réécrire notre littérature médiévale française.
Oui, le vieux français, il faut le réécrire.
Oui.
C'est pas le cas ici en Islande.
Mais c'est une société assez brutale, jamais de sentiments, jamais d'amour. J'ai l'impression que c'est exactement le contraire du roman courtois. Dans le roman courtois, le chevalier dit qu'il est amoureux de l'épouse de son seigneur. Il va tenter l'aventure, il tue des dragons, il revient, il tue le seigneur et il se marie avec la belle dame. Dans la littérature médiévale islandaise, on ne parle jamais d'amour, on parle de chevaux. Mais si on se tue, c'est pas pour les chevaux. C'est pour des femmes, mais jamais le moindre sentiment n'est exprimé.
Alors c'est un contradictoire, parce que vous disiez à l'instant qu'il y a autant d'hommes que de femmes, mais en même temps on n'en parle pas. Ce sont des figurantes.
Non, ce ne sont pas des figurantes. Elles sont très très actives, mais c'est l'expression des sentiments, du sentiment amoureux en particulier, n'est jamais exprimée.
C'est vrai. Iris. On parle plus des événements, et vous avez absolument raison. Je réalise maintenant que je ne me souviens pas d'avoir lu une histoire avec des sentiments.
Est-ce l'explication,
l'honneur et...
est-ce l'explication qu'aujourd'hui encore, on a tendance à dire que les Islandais sont durs au travail, durs à cuire, ne se plaignent pas, et est-ce que c'est... Ils sont, en ce sens, les héritiers des héros des sagas. Qui veut rebondir, Gunnar, qui se sent soudain une âme de viking.
Non, je ne sais pas. Je pense que nous, les Islandais, nous sommes comme les gens partout dans le monde. Je pense qu'on n'est pas si différents, même si notre identité, peut-être, s'est marquée par ces sagas, je ne sais pas, avec cette mentalité. Je ne sais pas. Pas vraiment. Je ne pense pas qu'on a un comportement de viking dans la vie quotidienne.
Alors, dans ce qui...
Tu es personne ce matin.
Enfin, jusqu'alors, en tout cas, jusqu'alors. Mais la journée n'est pas finie. Gérard Lemaki, on a compris que les Islandais étaient nourris de contes et de légendes, qu'on appelle des sagas. Et vous avez dit aussi que ce qui... On a compris, en tout cas, dans vos mots, que ce qui unissait les Islandais, c'était la langue, qui a très peu changé au cours des siècles.
Oui, bien sûr, les Islandais ont vécu en autarcie, population insulaire, la langue n'a pratiquement pas évolué. Et on voit ça dans de nombreuses régions du monde. C'est une langue complexe, une langue archaïque. Elle a la complexité du latin. C'est comme si aujourd'hui, nous parlions tous le latin. C'est une très belle langue, très très belle langue, d'une richesse absolument incroyable, qui était prononcée d'une façon un peu rude, sans justement exprimer les sentiments, mais qui, au cours des 40 années où j'ai vécu en Islande, est devenue de plus en plus douce, finalement.
Elle s'est ramollie.
Oui.
C'est bon, maintenant, on sait dire amour, c'est dire je t'aime, il y a toute une nuance maintenant pour... elle s'est adoucie, c'est ça, l'idée ?
Oui, même les intonations ont changé.
Victor, est-ce que vous parlez l'islandais comme le parle votre grand-père, par exemple?
Oui, ça y ressemble, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la même vie et son islandais est plus rude que le mien, clairement. Ouais.
Et est-ce que les mots, les vocabulaires s'est énormément enrichi? Comment la langue islandaise s'approprie les mots nouveaux, ordinateur, internet? Ce sont des anglicismes ou qui veut répondre? Qui veut rebondir?
Il y a beaucoup d'anglicismes dans l'islandais aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Il faut savoir que les islandais jeunes sont quasiment tous bilingues avec l'anglais. Il n'y a pas de traduction à la télévision, tout est en VO. Donc voilà, ça se joue beaucoup là-dessus. Sur ce qui est les nouveaux mots, ordinateur, souvent on fait une traduction assez parfaite d'un mot anglais ou du mot d'origine, en fait.
Alors ordinateur, ça se dit un mot islandais pour ordinateur?
Tölva.
Ah,
c'est assez facile pour le coup.
Pour le coup, c'est assez facile. Parce qu'effectivement, l'islandais est très très compliqué. Quand on voit passer une voiture de police, on ne peut pas soupçonner que ce soit une voiture de police, à moins que le gyrophare soit allumé. Hein. On ne peut pas deviner. Police, par exemple, ça se dit comment? En effet, c'est pas si évident que ça. À mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Europe continentale, les Islandais se sentent proches de qui? Enfin, on va laisser de côté les Américains pour l'instant, mais chez les Européens plus proches des Danois, qui ont été les colonisateurs jusqu'en 1944, ou plus proche des Norvégiens, ou plus proche des Anglais qui ne sont pas si loin que ça, ou des Irlandais qui sont dus avec des femmes, si j'ai bien compris. De qui se sentent proches en Europe les Islandais? Qui veut répondre?
Le Danemark.
Le Danemark.
J'ai même entendu que pour certains gens, j'ai entendu une histoire l'autre jour, il avait un étudiant, on parle d'il y a une trentaine d'années. Il a étudié en France, je pense. Et quand il est allé à Copenhague, il se sentait à la maison. Mais bon, beaucoup a changé en 30 ans. Mais c'est vrai que même si on ne le voit pas dans la vie quotidienne, j'imagine qu'il a pas mal des signes, des choses jumelées. Et c'est pas que ça, il a d'autres influences, sûr.
Gérard Lemarquis.
Je dirais pour commencer qu'ils ne se sentent pas proches du tout de leur plus proche voisin, qui est le Groenland. 300 kilomètres entre les fjords de l'Ouest et la côte du Groenland. Les Islandais ont été à une certaine période confondus avec les Esquimaux. Oh, horreur! Mais ils entretiennent des relations, quelquefois complexes avec leurs voisins, avec les Anglais. Il y a un rapport amour-haine, par exemple. Les Islandais adorent l'Angleterre, veulent être reconnus, leurs artistes, par les Anglais. Mais d'un autre côté, il y a une certaine résistance qui a des raisons historiques. La même chose avec le Danemark. Les Islandais adorent, mais en même temps, c'est l'ancien colonisateur.
Alors, il reste les Norvégiens.
Il reste les Norvégiens, oui, qui sont jalousés parce qu'ils le sont scandaleusement riches.
Alors que les Islandais ne sont pas pauvres, loin de là.
Mais c'est vrai qu'un Islandais préférera aller travailler en Suède ou au Danemark qu'en Norvège. Beaucoup d'Islandais travaillent en Norvège, mais c'est plutôt pour des raisons économiques que...
Les Islandais ressemblent plus aux Féringiens. Les deux plus semblables.
Alors là, les Féringiens, pour les auditeurs du bout du monde qui nous écoutent, il faut un peu expliquer qui sont les Féringiens, qui sont les habitants des îles Féroé. Et tout le monde ne connaît pas les îles Féroé. Là, c'est tout proche, les îles Féroé, Victor.
Ouais. 400
kilomètres. Voilà. Après, encore une fois, pour parler de la même légende que tout à l'heure, donc la petite histoire raconte que les Vikings, après être passés au nord du Royaume-Uni, laissaient les gens qui avaient le plus le mal de mer, en fait, aux îles Féroé. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai qu'en termes, ce sont des marins, beaucoup comme des Islandais. Ils chassent la baleine aussi, comme les Islandais.
Ce sont
des pêcheurs, des bons pêcheurs aussi.
Donc, comme les Islandais.
Voilà, comme les Islandais, pas besoin de le préciser. Et donc voilà, je pense que nous avons les rapports les plus proches avec eux, en fait.
Alors, les habitants des Féroé sont de tête, hein, je veux dire, une quarantaine de mille. Et Gérard Lemarquis, vous l'expliquiez dans votre livre, ils ont une très grande qualité, les habitants des îles Féroé. C'est leur équipe de football et c'est généralement la seule équipe de football que les Islandais peuvent battre à plat de couture. Hein. C'est officiel. Les footballeurs islandais sont plus forts que les footballeurs des îles Féroé. Sur cette petite note sportive, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps des infos, avant de se retrouver en Islande, à Reykjavik. A tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiejąc tę Europę.
Rozkrucia Europy.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Κρόσκοτερ Ευρώπη. The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours au beau milieu de l'Atlantique, très haut dans le nord. Nous sommes toujours en Islande, à Reykjavik. Je vous représente rapidement nos invités. Gunnar Haraldsson, économiste à l'Université d'Islande. Gérard Lemarquis, journaliste écrivain, qui vient de publier Les Islandais aux éditions Atelier Henri Dougier. Iris, chanteuse, que l'on entendra tout à l'heure chanter, pas simplement parler. Victor Geston, pêcheur et guide touristique. Solvi Ulfsson, étudiant en sciences environnementales. Alors, j'évoquais en première partie la crise de 2008. Tous les pays européens, et pas seulement, ont été secoués par cette crise. Elle a été plus violente ici qu'ailleurs. Pourquoi, Gunnar Haraldsson ?
On avait une économie très ouverte, avec les flux de capitaux libres. Et c'était très difficile à l'époque pour essayer de contrôler l'inflation ici avec le taux d'intérêt qui a été réélevé, qui a fait qu'on a eu ce flux de capitaux étrangers ici dans notre économie islandaise et on a créé une bulle qui a explosé. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que cette petite histoire de l'Islande dans tout ça, c'est seulement un chapitre dans un grand livre qui s'écrit à ce temps-là, parce qu'on a, bien sûr, on a eu des crises financières dans les autres parts du monde, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Mais c'est à cause de cette...
Mais elle était particulièrement violente parce qu'à un moment même, l'existence du pays a été... On s'est interrogé, est-ce que l'Islande allait sombrer dans l'océan Atlantique ? La question s'est posée à un moment.
Oui, mais peut-être on peut tirer la leçon que peut-être le système financier n'est pas si important. En fait, parce que notre économie, si on peut dire l'économie réelle, ça s'est bien marché.
Gérard Lemarquis, votre regard sur cette crise de 2008 ?
Oui, c'était une crise profonde, incroyable, politique, mais aussi existentielle. Les très pacifiques islandais, tout d'un coup, étaient dans la rue, manifestaient violemment devant le Parlement. Ensuite, une dévaluation de plus de 50%, une situation économique très tendue, les gens qui se sont retrouvés avec un endettement presque intolérable. Mais avec le FMI, l'Islande a fait un programme qui a été suivi très régulièrement. Le FMI a traité l'Islande de bon élève et l'Islande s'est remis assez rapidement.
Alors, on est ici dans un lieu qui s'appelle l'ARPA. Ici, à Reykjavik, tout le monde connaît l'ARPA. C'est à la fois un centre de conférence, ça abrite l'Orchestre National Symphonique d'Islande, c'est aussi un opéra, c'est gigantesque, on en occupe moins de 0,05% en ce moment pour réaliser cette émission, et donc ça paraît démesuré pour une ville d'environ 200 000 habitants, un pays qui reste un pays de 320 000 habitants. Est-ce que c'est l'illustration d'un moment, enfin de l'histoire, de la fable de la grenouille qui a voulu être plus grosse que le bœuf?
Absolument, c'est de la folie, mais comme tous les grands monuments du monde ont été construits par des dictateurs, des fous, des mégalomanes. Évidemment, l'Islande n'avait absolument pas les moyens de construire ce bâtiment. D'ailleurs, quand tout s'est effondré en 2008, ministre de l'Éducation nationale de l'époque avait émis l'idée de transformer Harpa à moitié construite en un monument consacré à l'effondrement de l'économie. Et puis finalement, on l'a terminé. Et aujourd'hui, c'est une réussite à la fois culturelle et
architecturale. Alors, on a l'habitude, quand on date la vie du monde, de dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Est-ce qu'en Islande, on dit avant 2007 ou avant 2008, après 2008? Oui, tout le monde est d'accord autour de cette table.
On dit même, quand on trouve que quelque chose est excessif financièrement, on dit, ah mais ça c'est tellement 2007.
Et 2007, pour reprendre un mot très français, c'était les années bling-bling de l'Islande. Alors le bling-bling en Islande, il se manifeste comment? Avec des gros 4x4
Beaucoup de prêts de la banque.
Beaucoup de prêts de
Donc,
la
les
banque.
Les gens, ils avaient tout. On ne parle pas de chacun, mais c'était l'image peut-être de que les gens, ils avaient beaucoup. Mais ils n'étaient pas forcément les propriétaires. C'était la banque.
Comme souvent. Hein,
comme souvent, mais peut-être un peu excessivement quand même, ici, juste avant la crise.
Victor.
Il fallait 10% ou même pas 10% d'apport avant crise, souvent pour prendre un prêt, notamment des prêts voitures qui coûtaient vraiment pas cher, enfin, où on n'avait besoin d'aucun apport, même si le prêt en lui-même était cher. Donc en fait, voilà, les gens s'achètent des gros 4x4, se sont achetés des très belles maisons, et au final, qui n'ont jamais pu payer.
Alors ces Islandais que l'on disait, qui ont des siècles durant vécu dans une économie de survie, soudain, est-ce qu'ils se sont mis à croire, si c'est au Père Noël, du moins au fait, qui alimente parfois les sagas, ou est-ce qu'à un moment, je sais pas, il y a une folie qui a saisi tout le pays et tout le peuple qui veut rebondir, Gunnar, ou peut-être Gérard Le Marquis?
Moi, je vis toujours les Islandais comme dédoublés. D'un côté, il y a une certaine mégalomanie, une certaine confiance en soi excessive des Islandais, qui les rend très audacieux, prêts à se lancer dans n'importe quelle aventure. Ça, c'est un aspect. Et puis, l'autre pôle, c'est l'inverse, c'est-à-dire un complexe d'infériorité, la peur de ne pas être aussi bien que les autres pays européens, etc.
Gunnar.
Et les Islandais naviguent entre ces deux pôles.
Oui, mais en même temps, on est assez bien ici. On a un niveau de vie bien élevé. On a un niveau de vie comparable aux pays nordiques, les pays scandinaves comme la Suède, le Norvège, le Danemark. Il ne faut pas oublier que même après 2007, même après la crise, on est assez bien. Aujourd'hui, on a un taux de chômage de 4%, l'inflation est très bas.
Alors c'est vrai,
la croissance est autour de, c'est pas quoi, 3% par an. C'est, je pense que si on compare avec plusieurs pays européens, par exemple, on est assez bien.
Gérard Le Marquis évoquait à un moment des manifestations en Islande, et c'est assez rare, mais ça n'a pas duré très très longtemps. On a l'impression que les Islandais ont retroussé leurs manches. Par exemple, on n'a pas entendu les Islandais comme les Grecs manifester sans cesse. Ils ont dit, voilà, on est dans une difficulté, il faut faire face. C'est un sentiment très très islandais, Victor, de dire... Il faut faire face, on se retrousse les manches.
Forcément, l'Islandais pense beaucoup comme ça. Après, décrire 2008 ou la réaction des gens après la crise, en quelques mots, c'est assez difficile. Mais c'est vrai que ce qui a été important, c'est que les gens ont eu du travail. Il y a eu le chômage augmenté, mais pas de manière excessive. Et tant qu'on a du travail, finalement, on va au travail, quoi. Et je pense que ça, entre autres, a permis de relancer aussi l'économie.
Alors, Gunnar disait qu'à un moment, on a retrouvé le monde de la réalité. La réalité en Islande, l'économie réelle, elle a un nom, ça s'appelle le poisson.
Le poisson, le tourisme, oui, et l'électricité. Voilà, c'est les trois domaines qui font vivre l'Islande en grande partie.
Alors le poisson, parce que j'aime beaucoup cette formule, le pays, on est entouré de poissons,
oui.
J'aime beaucoup cette formule. L'électricité, parce qu'elle est produite par la géothermie.
Et
l'hydroélectricité. Et puis, ça veut dire que l'électricité est pas chère ici. La géothermie, ça veut dire qu'il y a partout des sources de chaude très très chaudes qui jaillissent un peu partout dans le pays et qu'on arrive à transformer cette chaleur en électricité. On rentre pas plus dans les détails. Hein. Et puis le tourisme, car soudain, le monde entier a découvert ce pays. Ça a été une campagne de publicité formidable. Finalement, la crise, tout le monde a parlé les volcans qui se sont réveillés à ce moment-là. Ça a été une merveilleuse campagne de publicité pour l'Islande.
Tout à fait, le volcan, même presque encore plus, finalement.
Alors ce volcan avec ce nom évidemment imprononçable,
Eyjafjallajökull, mais c'est pas très difficile. En réalité, ce qui a fait exploser le tourisme, entre autres, c'est le fait que la devise islandaise a chuté de 100%, donc il est devenu tout d'un coup deux fois moins cher pour un touriste européen de venir en Islande, quoi.
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les touristes en Islande? Ils sont très nombreux, 300 000 habitants, 326 000 exactement, et plus d'un million de touristes, trois fois plus de touristes que d'habitants. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les touristes?
Ils viennent chercher des paysages qu'il leur sera assez difficile de voir ailleurs. Et ils viennent chercher des sources chaudes, ils viennent chercher souvent voir les animaux, les oiseaux surtout. Mais je dirais principalement un calme et une beauté de paysage.
Et il paraît qu'aussi maintenant ils viennent assez souvent à Reykjavik, car Reykjavik a longtemps été une belle endormie, se réveille.
Oui, alors Reykjavik devient un petit peu plus importante, et notamment culturellement avec de la musique, etc.
La culture, c'est également un des plus grands produits d'exportation d'Islande en ce moment, qui est assez incroyable parce qu'il a quand même, par exemple, jamais été autant de films produits qu'après la crise, par année. Il y a beaucoup de mouvements dans ce domaine.
Beaucoup de musique, hein, dont vous êtes
musique
une
aussi,
illustration,
oui,
et on
oui,
va
oui.
vous entendre tout à l'heure.
Absolument.
Évidemment, difficile de ne pas mentionner le nom de Björk. Mmh. Beaucoup d'écrivains aussi,
oui.
notamment d'écrivains policiers.
Oui. Hein.
Et la littérature islandaise, Solfi, elle est toujours naturellement noir, ça s'explique comment il y a une noirceur dans l'Islande, peut-être parce que on l'a pas encore dit, mais pendant 6 mois de l'année, le soleil ne pénètre pas en Islande, on est dans un noir presque complet, n'exagérons pas. Ça explique un peu la noirceur de la littérature islandaise.
c'est une génération hyper grande, quoi. Mais oui, le plus connu de l'écrivain islandais est évidemment Arnaldur Indriðason. Quelques autres aussi qui écrivent les policiers scandinaves, quoi.
Gérard Lemarquis, c'est noir, on rigole pas souvent, on rigole pas toutes les pages.
Le roman noir est pessimiste, il aime les atmosphères glauques et la nuit hivernale nordique permet justement de créer ce genre d'atmosphère.
Et elle est révélatrice de l'état d'esprit des Islandais qui sont peut-être noirs, j'en sais rien, peut-être non.
Non, non, il faut dissocier. Ah. Les romanciers noirs islandais font tuer dans leurs romans 10 fois plus de personnes qu'il n'y a de morts.
Dans la réalité
islandaise. Non. Les Islandais, au contraire, sont très optimistes, ils sont très confiants, ils sont très entreprenants. Quelle différence avec les Français.
Par exemple, les Français,
qui,
hein,
qui vivent une crise existentielle et
permanente, mais qui sont parfois rigolos. ça leur arrive. Alors, on le disait, les Islandais travaillent beaucoup. Pas de salut en dehors du travail, Victor. On travaille très tôt. Par exemple, vous, votre papa est pêcheur et vous avez connu les bateaux très tôt.
C'est ça, très jeune. On commence souvent assez jeune et surtout, disons, les gens qui ont après mon âge, vers 25 ans, et les générations d'avant.
Votre histoire, par exemple,
j'ai commencé à aller en mer vers 5 ans, 6 ans, avec donc mon père et mon grand-père qui m'emmenaient pour m'apprendre le travail, en quelque sorte, et puis j'ai continué tous les étés jusqu'à 18 ans, et jusqu'à ce que je travaille réellement en mer pendant 3 ans. Donc voilà, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, et en même temps qu'on habite dans un petit village du nord de l'Islande, on n'a pas beaucoup d'autres choses à faire que travailler, donc on vit de ça, et puis on aime bien plutôt.
Ouais. Et ça veut dire qu'à 7-8 ans, vous étiez sur un petit bateau?
Bien sûr, ouais, on travaille à faire le travail de n'importe quelle personne.
On fait
le travail du petit, donc on fait toutes les sales tâches en quelque sorte, ouais. mais bien sûr.
C'était pas un amusement, c'était pas une distraction,
c'était un vrai travail. À plein temps, ouais.
ce rapport au travail, je disais en présentant Iris que tous les Islandais avaient un ou deux travail, c'est pour mieux vivre ou c'est une nécessité de travailler, Iris?
C'est une bonne question. Pour le moment, j'ai 3 carrières. La musique, c'est ma passion, mais mon principal de l'esprit. Mais ça, c'est une très bonne question. Je pense que il y a beaucoup d'artistes qui sont dans la même situation. Et un de mes théories, c'est parce que c'est très très difficile de vivre sur son art en Islande parce que c'est une petite société, sauf 1 ou 2%. Donc c'est plus pour le plaisir dans beaucoup de cas. Ça, c'est un peu dommage quand même. Mais c'est l'effet. On reste très créatif comme nation, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de livres qui sont sortis. Je pense qu'on est grand capital de littérature vis-à-vis des pourcentages des livres qui sortent.
Est-ce qu'on aime lire parce que les hivers sont longs et que, alors il y a le travail, que dans le nord, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que le travail quand on est dans un village du nord, puis il y a aussi la lecture, les hivers sont longs, Gérard Lemarquis?
Bon, c'est aussi comme un devoir. Les Islandais pensent qu'il est nécessaire de lire. Le cadeau de Noël en Islande, c'est un livre. On offre des livres. Alors, est-ce qu'on les lit? Ça, c'est une autre affaire.
Je pense qu'on est élevé dans un environnement qui met beaucoup de valeur à la littérature et les arts et tout ça. Donc, je pense que c'est une nation de littérature, en fait, de la littérature.
Un mot sur la vie des Islandais. Qu'est-ce qu'ils font en hiver et qu'est-ce qu'ils font en été? Il y a une telle rupture entre l'hiver et l'été. L'hiver, il fait nuit presque 24 heures, hein, j'exagère un peu. Et en plein été, il fait jour
24 heures. Et on sent déjà, par exemple, là, on est au printemps. Moi, je trouve pas qu'il fasse très, très chaud. Mais j'ai croisé des Islandais en t-shirt, même en short, alors que moi, j'ai trois épaisseurs. Victor, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Qu'est-ce qui se passe l'été?
L'hiver, après, c'est un peu chacun pour soi. Mais c'est vrai que les gens, l'hiver, font plutôt leur passion. On a un peu du temps pour soi, en quelque sorte, avec la nuit. Donc, certains chantent, d'autres peignent, d'autres écrivent. Et donc, on est plutôt renfermé chez soi et sans pouvoir faire réellement d'activité extérieure. Donc, ça travaille beaucoup sur son propre cerveau à se trouver des activités qu'on aime bien faire. Donc, chaque Islandais essaye de s'occuper de, en quelque sorte, tuer le temps beaucoup en hiver.
D'où le fait qu'il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de musiciens,
Je pense que c'est très lié, oui.
Et l'été, alors là, c'est l'explosion.
Oui, alors l'été, forcément, on essaye d'être beaucoup dehors. On essaye d'aller dans les montagnes, marcher en 4x4. Après, chacun peut s'activer. Moi, je pêche beaucoup, donc c'est ce que je fais en été. Je suis au bord de l'eau.
Gérard Lemarquis, une remarque?
Oui, on n'a pas parlé quand même du fait que les Islandais, majoritairement, sont luthériens. Il y a une culture luthérienne. Je ne trouve pas que les Islandais soient très croyants, ils ne sont pas du tout mystiques, par exemple, mais ils ont intégré cette culture du travail. Le travail est un devoir, c'est positif, il faut travailler. Un Français rencontre un Français, oh là là, quel boulot, je travaille. Un Islandais rencontre un Islandais... Tu travailles assez? Oui, je travaille assez. Voilà. L'autre est rassuré.
Alors, on va quand même arriver au cours de cette émission qui tout doucement arrive à son terme à un sujet évidemment très européen puisque cette émission s'appelle Carrefour de l'Europe. L'Islande était candidate à l'Union Européenne quand tout allait mal, on était en 2009, juste un an après 2008, cette fameuse crise. Et puis là, ça va beaucoup mieux en Islande, comme nous l'a entre autres expliqué Gunnar. Et là, les Islandais ont retiré leur candidature à l'Union Européenne. Alors que j'ai envie de vous dire, est-ce que les Islandais sont pragmatiques ou est-ce qu'ils sont opportunistes, Gunnar?
En fait, la question de l'Europe ici en Islande, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça, en fait? C'est pas une question d'idéologie ou pour faire la paix en Europe ou les choses comme ça. C'est pas
L'Islande
question,
n'a jamais été en guerre.
Ah non. Et en fait, c'est toujours la question... est-ce qu'on va gagner quelque chose par entrer dans l'Union Européenne?
Mais est-ce qu'on va gagner quelque chose dans les 15 jours à venir ou est-ce qu'on a une vision, disons, à moyen ou à long terme?
Il y a une vision de 20 ans, peut-être, je ne sais pas, mais parce qu'il n'y a personne qui peut prévoir qu'est-ce que ça va passer dans 20 ans. Pas en Islande, pas en Europe. Mais je pense que les gens, ils pensent à 15, 20 ans. Et ils pensent seulement à ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre économie? Est-ce que je vais être plus riche ou plus pauvre? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre industrie de pêche?
Gérard Lomaki, qu'est-ce que ça révèle profondément? À un moment, les Islandais ont vu l'Union Européenne comme une boîte de sauvetage, et ça va mieux, finalement, bye-bye.
Voilà, c'est ce qui s'est passé après la grande dévaluation. Évidemment, les Islandais ont voulu changer de monnaie, avoir une monnaie plus stable, l'euro. Et puis, la situation s'est améliorée, et cette perspective s'est éloignée. En plus, la santé de l'Europe en ce moment n'est pas excellente. L'Islande fait partie de l'AELE et de l'espace économique européen, a intégré un très grand nombre de directives européennes.
Par exemple, l'Islande est dans l'espace Schengen, on arrive de Paris sans même montrer son passeport ou la moindre pièce d'identité.
Exactement. Les étudiants islandais sont dans les programmes Erasmus. Alors, les Islandais ont l'impression qu'ils ont le meilleur de l'Europe sans en avoir les inconvénients.
Victor.
Cette lettre du ministre des Affaires étrangères vers l'Union européenne au sujet du retrait de la candidature, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit ici. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur ça et sur la manière dont ça a été fait. Ces deux partis avaient promis un référendum sur la poursuite des affaires européennes, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est un sujet un peu sensible. Après, concernant l'Union européenne d'une manière générale, oui, l'Islande en parle, mais comme disait Gunnar, ils cherchent ce qu'ils ont à y gagner ou à ne pas y perdre. Et donc tant qu'on n'aura pas quelque chose de négocié sur la pêche, sur l'agriculture, ça ne sert pas grand-chose de parler d'Union européenne, quoi.
Et un mot clé, je ne sais pas si on en parle beaucoup ici en Islande, mais c'est le mot réchauffement climatique. Et si partout dans le monde on craint le réchauffement climatique, il semble qu'on l'attende avec impatience en Islande. Pas seulement parce que ce sera évidemment un peu plus de soleil, ça fera du bien, un ou deux degrés en plus, ce sera forcément agréable, mais c'est l'idée qu'avec la fonte des glaces arctiques, finalement les bateaux vont pouvoir passer non loin de l'Islande pour rejoindre la Russie, qu'il y a des réserves de pétrole qui sont mises à jour, etc. Et soudain, l'Islande, Gérard Lemarquis, l'Islande s'imagine, se rêve, un nouveau centre du monde, c'est un peu ça ?
Oui, n'exagérons rien, mais enfin, effectivement, il y a l'ouverture de nouvelles routes maritimes, les perspectives aussi au Groenland, les entrepreneurs islandais se préparent à intervenir au Groenland. Il y a aussi le fait que nous ne sommes plus au milieu des glaces, nous sommes une destination de week-end pour les Européens. C'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est aussi la mondialisation et le fait que nous sommes maintenant à deux pas de l'Europe au lieu d'en être très éloignés.
Alors l'Islande proche de l'Europe, point d'interrogation, de l'Union européenne de moins en moins semble-t-il, mais pas très loin des États-Unis. Il y a un mode de vie assez proche des États-Unis ici en Islande, notamment à travers l'alimentation. Gros, ça veut dire que les Islandais ont une tendance à l'obésité. Ouais. Gunnar.
Parce qu'en fait, je pense que culturellement, on est très lié à l'Europe, bien sûr, mais aussi aux États-Unis, et beaucoup, je pense qu'on est beaucoup plus culturellement proche de les États-Unis que les autres pays européens, mais c'est aussi à cause du fait que pendant des décennies, on avait une base américaine ici à Keflavik, pas loin, et en fait, ça a fait qu'on a eu cette influence culturelle dans notre société. Et je pense aussi, il joue dedans cette question de la langue, parce que...
Tout le monde parle anglais.
Oui.
Solfi, vous vous sentez plus proche de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ?
Donc, personnellement, je me sens beaucoup plus proche de l'Europe. Mais je pense pour les Islandais adorent l'Amérique, les Islandais adorent la culture américaine. Tout le monde parle des séries télévisées d'Amérique, personne parle des séries télévisées de l'Europe, peut-être de Danemark, de voir.
Peut-être Borgen, grande série danoise, s'il en est. Un mot, ouais. Plus proche de l'Europe ou des États-Unis?
Étant moitié français, moi je suis bien plus proche de l'Europe. Après, oui, pour revenir là-dessus, c'est vrai que les gros 4x4 et la manière de manger, les drive-in, c'est américain, clairement. Ce qui s'explique aussi par des conditions plus difficile en Islande, où un gros 4x4 sert beaucoup plus qu'en centre-ville d'une grande ville américaine, quoi.
Un mot, chacun, un mot, mais vraiment d'un mot, une bonne raison de venir en Islande. Gérard Lemarquis, un mot.
Les jolies islandaises.
Victor.
L'air pur.
L'air pur, ça le fait.
Les jolies islandais.
Encore, ah, c'est confirmé. Et je peux confirmer. Iris à ma droite, ah, effectivement. Gunnar.
L'air pur.
L'air pur. Iris, c'est vous une dernière raison. Alors, vous n'allez pas dire les islandaises. Hein, alors, une bonne raison de venir en Islande, autre chose que les islandaises.
D'accord, j'allais dire l'air pur, mais je vais changer. Peut-être l'espace.
L'espace, ouais. L'Islande, 3 habitants au kilomètre carré, évidemment, ça fait rêver bien des Européens, et je ne parle même pas des Asiatiques. Merci à tous d'avoir été à ce carrefour de l'Europe très septentrionale, réalisation Guillaume Munier. Merci à la compagnie nationale Icelandair et à visitereykjavik.is de nous avoir aidés dans l'organisation de ce carrefour de l'Europe. Vous pouvez réécouter cette émission via le site rfi.fr, rubrique émission, et via les applications mobiles mais gratuites de RFI. On reste en contact avec Facebook et Twitter. Daniel Ezesquel, où que vous soyez, à Reykjavik, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on va se quitter sur une chanson d'Iris qu'on a beaucoup entendu parler, mais qu'on va entendre chanter. Et vous pourrez retrouver Iris sur son site, irismusic.is. Toutes les informations sont évidemment sur la page internet de l'émission. Iris, on vous écoute.
Þig einan síðkvöldin löng Og hver sem fleiset fer Fylgir minn hugur þér Og þá sólin skín Svíf ég til þín þig mitt ljúfasta ljóð þig leik ég dýrasta nú Húsa ég fljótt hverja nótt þig aðeins þig Sér hvert andartak á þín, þú ert mér í huga og aðeins ég hugsa þig vil ég syngja minn söng þig einan síð kvöldin löng Og hver sem fleiðið fer, fylgir minn hugur þér, og þá sólin skín, svíð til þín. Þig mitt ljúfasta ljóð, þig leik ég dýrasta Hugsa ég fljótt hverja nótt þig aðeins þig sér hvert andartak á þín þú ert mér í huga og aðeins ég hugsa þig